divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Clotilde Policard, bonjour.
Bonjour Emmanuel et merci de votre invitation.
Vous êtes professeure de chimie à l'École normale supérieure. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire des biomolécules et directrice des études au département chimie de l'École normale supérieure. Vous allez organiser le 3 juin prochain avec Mathias Girel une nuit porte ouverte à l'ENS au 45 rue d'Ulm à Paris, dont le thème est « Expliquer ». Nuit interdisciplinaire, vous tenez à montrer le plaisir de la recherche et de l'explication. Nous allons revenir sur cette nuit du 3 juin, mais j'aimerais d'abord que vous commenciez par faire un point sur votre métier de chercheur, de professeur et de chimiste. Donc d'abord, Madame le professeur, un mot peut-être sur votre spécialité et votre travail sur les métaux en biologie et sur ce qu'est, parce que le grand public peut-être la connaît peu, ce qu'est la chimie inorganique cellulaire.
Alors effectivement, je suis chimiste de formation et je m'intéresse aux métaux en biologie. Alors notre organisme, nos cellules peuvent être considérées comme des petits réacteurs de chimie où se produisent de nombreuses réactions chimiques, donc les molécules sont transformées et participent à ces transformations des enzymes qui vont en fait accélérer ces réactions. Environ la moitié des enzymes que nous possédons contiennent un cation métallique, un métal. Donc ça peut être du fer, comme dans l'hémoglobine, du zinc, comme dans certaines protéines. Et ces métaux jouent un rôle clé, et ces métallo-enzymes, et ces métaux jouent un rôle clé dans la plupart des processus fondamentaux du vivant. Donc moi, dans ce cadre-là, je m'intéresse plus particulièrement à des métalloprotéines qui ont des propriétés antioxydantes. Et donc, nous préparons au laboratoire de petits complexes métalliques qui reproduisent leur activité. Donc, l'idée, c'est que lorsque l'on respire du dioxygène, qui est un gaz indispensable à la vie, ils vont se créer des espèces extrêmement réactives. Donc, on en entend parler beaucoup dans les médias. Hein. Ce sont des espèces oxydantes. Et ces espèces doivent être contrôlées pour éviter les dommages cellulaires par des protéines, comme les protéines antioxydantes sur lesquelles je travaille. Donc dans certains cas, les défenses endogènes que notre organisme est capable de produire sont inefficaces ou submergées par le flux de ces espèces réactives. Et donc on peut chercher à les remplacer par des petites molécules qui sont synthétisées par les chimistes. Donc c'est exactement ce que nous réalisons et nous testons ces molécules inorganiques, qui peut être un synonyme de complexe métallique aussi, sur des systèmes cellulaires. Alors d'une manière générale, les cellules sont des unités organisées dans l'espace. Donc il y a différents compartiments à l'intérieur des cellules. Donc imaginons par exemple que c'est un sac à main. Donc à l'intérieur de votre sac à main, il y a plusieurs poches. Il y a un portefeuille, une poche où vous mettez les clés, une poche où vous mettez la carte pour rentrer dans un parking par exemple. Et donc selon l'endroit où se trouvent ces différents éléments, eh bien ils vont pas avoir la même fonction. Donc c'est exactement la même chose dans un système cellulaire. Selon l'endroit où se trouvent les petits complexes métalliques ou les protéines en général, eh bien on n'aura pas la même fonction. Donc associé à cette question de l'activité de systèmes métalliques à l'intérieur de systèmes cellulaires, on a la question de la localisation de ces entités. Donc il y a un deuxième champ sur lequel nous travaillons qui est la question de l'imagerie, c'est-à-dire construire des cartes pour savoir où se trouvent ces molécules que nous introduisons dans le vivant, ce qui nous permet de mieux comprendre leur activité et peut-être, nous l'espérons, de l'améliorer. Et donc c'est ce qu'on appelle globalement la chimie bio-inorganique ou la chimie inorganique cellulaire, c'est un terme qui émerge aujourd'hui, parce que c'est vraiment l'idée d'aller comprendre où les complexes métalliques se trouvent à l'intérieur de la cellule. Alors je peux peut-être donner un complément là-dessus. Ce terme chimie inorganique cellulaire est un terme très particulier, ou chimie bio-inorganique, c'est un peu un oxymore, puisqu'effectivement l'origine du mot chimie organique en science, ce terme est créé au 19e siècle et il est là pour désigner la chimie des corps organisés Et donc, c'est la chimie du vivant. Donc, c'est le sens de chimie organique, chimie des corps organisés. Donc, évidemment, la chimie inorganique, c'est la chimie
des
du
métaux,
non-vivant,
oui.
Hein, puisque donc, c'est la chimie.
Métaux.
Et à l'époque, au 19e siècle, on pensait effectivement que les métaux étaient des espèces exogènes qui pouvaient avoir un rôle sur le vivant, mais en tout cas qui n'étaient pas présentes de manière naturelle dans le vivant.
Qui ne faisaient pas partie du vivant.
Qui ne faisaient pas partie du vivant. Donc aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Depuis la fin du 19e siècle, ça commence à être mieux connu à partir des années 20 environ. Mm-hmm. Et donc le domaine chimie inorganique cellulaire ou chimie bio-inorganique, les deux termes peuvent s'utiliser. Je disais, c'est un peu un oxymore, puisqu'effectivement, on va ramener les métaux à l'intérieur du vivant et les étudier dans le vivant.
Alors, ce qu'on comprend à ce que vous expliquez de votre travail, c'est que votre travail de chimiste vous amène tout naturellement à l'interdisciplinarité. Et bien que chimiste de formation, vous travaillez justement à la croisée de la biologie, de la physique et de la médecine. Donc, au fond, votre travail, c'est celui de l'interdisciplinarité ?
Oui. Tout à fait. Alors, beaucoup de travaux aujourd'hui en sciences sont des travaux interdisciplinaires, mais ce champ est particulièrement propice à cela, puisqu'effectivement, d'une part, nous travaillons avec des médecins et des biologistes pour les aspects cellulaires de nos travaux. Nous travaillons aussi dans un laboratoire de chimie, puisqu'il faut préparer les molécules, mais nous sommes aussi en interaction avec des physiciens, puisque nous essayons d'imager ces molécules à l'intérieur du vivant. Donc, il y a effectivement, on est un petit peu au cœur ici de différentes disciplines. Alors pourquoi moi j'étais intéressée par un aspect pluridisciplinaire ? Eh bien c'est que dans l'interaction avec les chercheurs d'autres disciplines, eh bien on est amené à découvrir de nouveaux champs. Donc il s'agit d'assouvir une certaine curiosité. Donc quand on est chercheur, il y a une forte part de curiosité. On est souvent en position de ne pas savoir ou bien en position d'expert. Donc ça, c'est intéressant. Il y a à la fois l'idée qu'on découvre, mais aussi l'idée qu'on est responsable d'une partie importante du projet. Donc ça, c'est important. Et surtout, je pense que ce qui est important dans l'interdisciplinarité, c'est que ça m'amène, en ce qui me concerne en tant que chimiste, à me poser des questions de chimie autrement. C'est-à-dire que ça m'amène à jeter un nouveau regard sur ma propre discipline. Donc c'est extrêmement enrichissant et particulièrement fécond. Donc il est important de se mettre à la place de l'autre chercheur pour mettre en perspective ce que l'on sait déjà. Et ça, c'est tout à fait important.
Peut-être vous pourriez nous dire un mot de la spécificité du travail et des conditions de travail à l'ENS.
Alors à l'École Normale Supérieure, c'est une université, je dirais d'une certaine manière, comme les autres. Les laboratoires y sont gérés et administrés de la même manière, avec des tutelles variées, ENS, CNRS, éventuellement INSERM, éventuellement UPMC aussi, Université Pierre et Marie Curie. Mm-hmm. L'enseignement aussi est similaire. Les services que nous devons sont les mêmes qu'à l'université. Le service, c'est le nombre d'heures que nous devons effectuer
comme chercheur.
Devant les étudiants.
Oui. Enseignant-chercheur.
Quand on est enseignant-chercheur, effectivement. Mm-hmm. Donc je dirais que l'essentiel de la différence en tant qu'enseignant-chercheur à l'ENS, c'est le rapport qu'on va pouvoir établir avec les élèves et les étudiants. Donc ce qui est spécifique à l'ENS, c'est que les promotions sont petites, mm-hmm. Et donc ça permet une grande proximité. Nos salles de cours au département de chimie jouxtent les laboratoires. On peut se rencontrer le long des couloirs et les étudiants sont amenés à discuter avec nous de manière extrêmement fréquente. Et donc, ils peuvent venir aussi nous voir dans nos bureaux pour prolonger d'éventuels cours ou nous poser des questions sur leur avenir. Donc, on a aussi un dispositif particulier à l'École Normale Supérieure qui est le tutorat d'orientation. Ce qui nous permet en fait, de discuter lorsque les élèves ou les étudiants le souhaitent, de leur avenir. Ils ont un projet, ils veulent par exemple travailler dans le management de la recherche. Donc on va s'asseoir avec eux et on va voir comment on peut réaliser cela. Donc l'École Normale Supérieure, ce n'est pas un lieu où on forme uniquement des enseignants. C'était ce qui était
existait
à l'origine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un lieu où on forme à la recherche et on peut se diriger vers des carrières dans l'administration de la recherche, des carrières éventuellement dans l'industrie. Ça, c'est tout à fait possible. Je dirais que 100% des étudiants qui veulent devenir chercheurs en industrie ou dirigeants dans l'industrie peuvent le devenir. Les nombres sont petits puisque la plupart des gens qui rentrent à l'École Normale Supérieure, ce n'est pas leur projet. Mmh. Et 100% de ceux qu'ils veulent peuvent réaliser ce souhait.
Très bien. Alors, venons-en à cette nuit du 3 juin qui va avoir lieu à l'ENS, cette nuit interdisciplinaire, lettres et sciences, que vous co-organisez avec Mathias Giral. Mathias Girel, pardon, la nuit de l'explication. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez mettre en avant lors de cette nuit et comment vous avez conçu un peu les choses, lui et vous ?
Alors cette nuit s'intitule « Nuit, sciences et lettres », donc c'est encore là de l'interdisciplinarité, mais au-delà des sciences, puisqu'il y a deux écoles à l'ENS, l'école sciences et l'école lettres, et on a voulu mettre l'accent au cours de cette nuit sur la complémentarité des différents savoirs. Donc c'est une nuit qui est aussi associée à Paris sciences et lettres, et qui va donc associer l'Institut Curie, l'ENSAD et l'école supérieure de physique et chimie industrielle, donc l'ESPCI.
C'est
donc,
une nuit qui est ouverte à
tout
tous.
Tout à fait, c'est une nuit qui est totalement
libre. Aux auditeurs.
Tout à fait, elle aura lieu le 3 juin. Donc, les portes...
À partir de...
Donc les portes s'ouvrent à 18h30, mais les premières conférences démarreront à 19h et jusqu'à 2h du matin, vraisemblablement.
D'accord.
Donc il y aura de nombreuses activités. Le sous-titre de la nuit, vous nous l'avez indiqué, c'est « Expliquer ». Il a été proposé par Marc Mézard, qui est le directeur de l'École normale supérieure. Et quand il a fait cette proposition, ça nous a paru riche en possibilités. Donc on a tout de suite eu envie d'adhérer à ce titre. Et on a abordé le thème... à travers deux grands axes. Donc tout d'abord, la question de la pratique de l'explication. Que fait-on quand on explique ? Et est-ce qu'il y a des différences entre les sciences et les lettres ? Et puis les grands débats contemporains. Que savons-nous expliquer aujourd'hui ? Alors, ce qui nous a paru important au cours de cette nuit, ça a été de faire ressentir à travers différents formats dont on pourra éventuellement reparler. Il y a des conférences courtes, mais aussi des représentations théâtrales, des concerts, des ateliers. Et donc à travers tous ces formats, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire ressentir le plaisir de la recherche et l'émotion particulière qu'on ressent au moment où on commence à comprendre, où le voile se lève et tout d'un coup on se dit « Ah mais oui, mais c'est bien sûr ». Donc c'est vraiment ce sentiment-là qu'on a voulu faire ressentir au grand public. Alors, est-ce que vous voulez un peu plus de détails peut-être sur les réunions
les auditeurs à venir ?
Lorsque on s'est réunis d'assez nombreuses fois dans le cadre d'un comité de pilotage, on a beaucoup discuté sur ce que c'était expliquer. Donc, on s'est vite dit que expliquer, en fait, pouvait être conjugué avec de nombreux verbes. Finalement, on peut conjuguer ça avec dire, montrer, c'est une conférence, une démonstration. Comprendre, interpréter, découvrir, mais aussi traduire. Donc, évidemment, on va impliquer les départements littéraires et de langue. Transmettre, l'idée de transmettre et de l'enseignement est aussi présente au cours de cette nuit-là. La transmission du savoir est quelque chose d'important.
Parce que peut-être qu'on explique et qu'on ne comprend jamais aussi bien que quand on fait cours.
Exactement.
Quand on cherche
faire cours,
à expliquer,
ça amène exactement à remettre en perspective nos propres connaissances et à mieux comprendre ce qu'on souhaite expliquer. Donc il y a aussi témoigner. Donc il y aura des témoignages de chercheurs sur comment je suis devenue chercheur, d'une certaine manière. Manipuler, il y aura un espace entier réservé à des ateliers. Expérimenter, il y a aussi le terme jouer qui est important, puisqu'il y a tout cet aspect ludique et cet aspect de plaisir. Donc ça va avec s'amuser, mais ça va aussi avec jouer en concert ou sur une scène de théâtre.
Donc vous allez jouer, vous,
donc,
Clotilde Polycarpe.
Alors en l'occurrence, oui, mais c'est, disons,
anecdotique.
Annexe, voilà. Donc effectivement, il y a en particulier une pièce de théâtre qui s'appelle « Quand Pasteur était chimiste » que nous avons montée avec les élèves du département. Et pour différentes raisons, on a été amenés, deux chercheurs du département étaient amenés effectivement à participer à la réalisation de cette pièce.
Donc ça sera une nuit très riche auquel nous invitons les auditeurs. Je voudrais peut-être, Clotilde, évoquer la figure de votre époux, Alain Polycarpe, qui a pendant de longues années était le rédacteur en chef des Cahiers Rationalistes. Aujourd'hui, c'est Alain Bicoq qui lui a succédé. Alors, je voudrais vous poser la question habituelle à l'issue des émissions de l'Union Rationaliste. Partagez-vous, Clotilde Polycarpe, cette adhésion au rationalisme ? Et si oui, pourquoi vous, Clotilde, êtes-vous rationaliste ?
Alors effectivement, le rationalisme est important pour moi, donc je me considère comme un compagnon de route de l'UR, même si je n'ai jamais pris le temps de m'y investir de manière importante. Donc, alors je me considère comme rationaliste dans le sens où je pense que le monde extérieur est intelligible. Alors la science n'est pas la seule voie d'accès au réel, la littérature en est un, le théâtre, et ça on le verra au cours de la nuit, c'est quelque chose que je considère comme extrêmement important. Mais la science, je pense, a un statut particulier par la méthode scientifique. Donc la méthode scientifique, c'est quelque chose qui permet d'apporter des preuves publiques et accessibles à tous lors du manifeste de l'UR en 1945, le rationalisme est indiqué comme un concept, disons un mouvement peut-être, qui met sa confiance dans l'effort humain pour comprendre le monde et la vie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. On est capable de comprendre le monde extérieur, on est capable de comprendre les phénomènes qui sont autour de nous, et il faut chercher à le faire sans concession et absolument sans interdit. La méthode scientifique nous permet aussi de nous hisser au-dessus des codes culturels, et ce qui est important à travers tout cela, me semble-t-il, c'est d'avoir conscience que la science est universelle, et c'est ce qui fait de ce champ quelque chose, c'est ce qui est clé de mon point de vue par rapport à la méthode scientifique, et tout à fait unique. C'est aussi une quête infinie. Chaque fois qu'on découvre quelque chose, on monte sur un petit monticule et on s'aperçoit qu'il y a un autre monticule derrière qu'il va falloir gravir. Donc ça me paraît quelque chose d'important pour de bien concevoir ces notions-là, et de dire à tous les jeunes auditeurs que faire de la recherche, c'est encore une fois un champ infini, et qu'il y a de nombreuses choses à découvrir, hier comme aujourd'hui. Donc, devenir chercheur, c'est quelque chose qui pourrait, qui correspond à des volontés aujourd'hui possibles pour de nombreux étudiants, et qui me paraît un avenir plein de promesses.
Bon, c'est sur cette invitation que nous allons clore cette émission. Donc, nous invitons les auditeurs de France Culture à venir vous rejoindre le 3 juin prochain à la nuit interdisciplinaire de l'ENS, comme nous invitons les auditeurs de France Culture, les jeunes auditeurs, à se lancer dans la recherche scientifique et dans les études scientifiques. Je remercie Nicolas Delmas et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission. Je rappelle les numéros 639 et 640 des cahiers rationalistes, dans lesquels on trouve dans le dernier numéro cet article de Pierre Baraka sur la lumière, façon de rappeler le numéro 196 de Raison présente sur les lumières et les hommes, parce que les lumières, c'est aussi une façon de retrouver la chimie. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain. Thank you.